vous présenter quelques éléments de la discussion et de l'état de la recherche sur ce thème de la nation, en laissant après une large part à la discussion, parce que je crois que peut-être le plus utile, c'est que nous puissions discuter entre nous et puis préciser tel ou tel point. La première chose que je voudrais souligner, c'est que quand on fait de la recherche, il faut toujours s'interroger sur la question qu'on vous pose. Il ne faut jamais considérer que les questions qu'on vous pose vont de soi ou sont évidentes. Parce qu'en fait, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais très souvent, dans les luttes d'influence ou les luttes de pouvoir, un enjeu fondamental, surtout dans les sociétés démocratiques, c'est les questions et non pas les réponses. Donc, mon réflexe, chaque fois que j'aborde un sujet, c'est de me dire, est-ce que c'est une bonne question? Parce que, je dirais, on reconnaît un chercheur, un savant, par la qualité de son questionnement, par le problème qu'il pose. Hein. Et l'un des dangers, vous allez voir que dans ce domaine-là, il a été fréquent dans l'histoire, l'un des dangers de notre métier en tant qu'historien, si vous voulez, c'est qu'on soit mis à la remorque des politiques chercheront une caution, un soutien de notre part par rapport à leurs préoccupations. Donc à partir de ce préalable, je dirais que la question « qu'est-ce qu'une nation ?» est évidemment une bonne question sur le plan politique, sur le plan civique, mais ce n'est pas une bonne question sur le plan scientifique. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pratiquement pas d'historien sérieux qui travaillerait directement là-dessus, qui se dirait « je vais faire une thèse » ou « je vais faire une recherche approfondie » en essayant de répondre à cette question-là. Ceux qui font ça, ce sont ceux que les médias appellent aujourd'hui des intellectuels, des gens qui sont aux premières loges des télévisions, etc. Mais les chercheurs sérieux qui sont reconnus dans leur travail scientifique n'abordent pas les choses comme ça. Mais j'insiste sur le fait que c'est une question importante sur le plan civique. Vous avez un certain nombre de gens qui se disent, par exemple, qu'est-ce qu'un Français? Est-ce que je suis vraiment un Français? Est-ce qu'un tel est un Français? Est-ce qu'il n'est pas un Français? Bon, j'ai pas besoin d'insister là-dessus, beaucoup là-dessus, pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Donc nous, tout notre travail par rapport à ça, ça a été, moi, mon travail depuis très très longtemps, c'est de transformer, vous voyez, des questions qui sont présentées comme ça sous un jour assez trivial dans l'actualité, pour essayer de leur donner un contenu qui soit sérieux du point de vue scientifique. Alors, qu'est-ce qu'une nation? C'est une question, je dirais, qui a eu un grand succès dans l'histoire française, notamment dans l'histoire intellectuelle de la France, puisque elle a été posée, je dirais, officiellement pour la première fois par un philosophe, qui était aussi d'ailleurs un historien, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des différences aussi nettes qu'aujourd'hui. Il s'appelait Ernest Renan. Votre professeur m'a dit tout à l'heure, vous aviez un petit peu travaillé sur le texte de Renan. Donc, son texte s'appelle justement « Qu'est-ce qu'une nation ?». En fait, c'est une conférence que Renan a faite à la Sorbonne en 1882, dans un contexte politique extrêmement précis. Ce contexte, c'est la rivalité entre la France et l'Allemagne. Donc, justement, la démarche de Renan, c'est celle que nous ne voulons plus avoir, nous, aujourd'hui, historiens, puisque Renan, qui était un des intellectuels les plus prestigieux dans la France de cette époque-là, eh bien, utilise sa légitimité scientifique pour défendre une définition de la nation qui, en fait, est une définition qui arrange les Français. Hein, puisque l'enjeu, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais l'enjeu de ce débat, c'est de savoir, c'est la question de l'Alsace-Lorraine, puisque la France avait perdu la guerre en 1870 contre la Prusse, et la Prusse, donc Bismarck, a annexé l'Alsace-Lorraine, et donc il y a toute une polémique qui se développe, de quel droit avez-vous annexé une partie du territoire français? Alors les historiens allemands disent, oui, c'est normal, c'est légitime, parce que en Alsace, on parle l'allemand, et comme la langue est un critère de définition de la nation, c'est normal que l'Alsace devienne allemande. Donc les Français réagissent en disant non, ce n'est pas normal, parce que les Alsaciens voulaient rester français, donc ce qui compte, c'est la volonté, c'est l'avis des habitants. Donc voilà un petit peu ce contexte, vous voyez, c'est un contexte qui est extrêmement politique. Il faut faire attention de ne pas oublier cela. Donc, moi je dirais simplement, pour terminer cette introduction, que aujourd'hui, dans la recherche, il n'y a absolument aucun consensus sur ce que c'est que la nation, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est que l'identité nationale. Personne, du côté de la recherche, en gros, n'en sait rien, personne ne prend cette question-là complètement au sérieux. Le travail ne consiste pas à chercher des critères pour dire voilà ce que c'est que la nation, voilà ce que c'est que l'identité nationale. On travaille plutôt pour montrer comment les gens utilisent ça, hein, en fonction de leur position, de leur intérêt, de leur propre perspective, etc. Hein. Donc, n'utilisons pas les historiens pour essayer de cautionner tel ou tel point de vue politique. Ça, c'est un préalable, c'est tout à fait fondamental. Alors maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, on peut évidemment faire l'histoire de cette question-là. Hein. Donc, dans ma première partie, je commencerai par vous donner un certain nombre d'éléments sur les différentes définitions historiques qui ont été données de la nation. Ce n'est pas la mienne, hein, ce sont les définitions qui ont été avancées au cours du temps par différents individus dans différents pays. Voilà. Alors, ce terme de nation, si on fait un peu l'histoire du mot, eh bien, on constate que c'est un terme très ancien. Hein, c'est un terme qui vient du latin. La racine de nation, c'est natio, qui veut dire naître. Donc, ça a un rapport avec la naissance. Et donc, dès cette époque-là, dès la fin du Moyen-Âge, disons, on voit le terme nation utilisé pour, au sens, on pourrait dire aujourd'hui, de communauté. Une communauté d'individus qui ont en commun d'avoir la même origine, si vous voulez. Voilà un petit peu le sens initial. Mais pendant très longtemps, les termes de nation et de race, par exemple, étaient confondus. On pouvait prendre l'un pour l'autre, etc. Il n'y avait pas de différence majeure. Le tournant tout à fait décisif, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle et notamment la philosophie des Lumières. Hein. Donc, un basculement dans l'histoire de la pensée avec l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique. Donc, le mot « nation » tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il a un rapport direct avec la naissance de la politique. La politique, au sens simple du terme, c'est donc l'engagement d'un certain nombre d'individus qui revendiquent le droit de participer à la vie publique, hein, et de fabriquer les lois, de discuter des lois, etc. Et donc, on a là un point de départ de la mise en place de l'espace public, de la politique, et c'est dans ce cadre que le terme « nation » acquiert son sens moderne, son sens politique. Je dirais que la définition de la nation se met en place entre 1770 et 1810. Mais enfin, on n'est pas obligé de retenir les dates, c'est un petit peu hein, le reproche qu'on fait souvent aux historiens de vouloir absolument tout dater, mais vous retenez, voyez, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. J'insiste sur un autre point, parce que très souvent, y compris d'ailleurs chez les chercheurs, vous avez ce qu'on pourrait appeler une vision ethnocentrique de l'histoire, c'est-à-dire un biais qui est lui-même le produit d'une histoire nationale. Alors pendant longtemps, les Français ont dit, eh bien c'est nous Français qui avons inventé la nation. Bon, hein, à cause de la Révolution française, etc. Je crois qu'il faut être plus modeste et plus universaliste, et considérer qu'en fait, que dans l'élaboration de la définition de la nation, vous avez trois sources, trois types d'événements politiques. Le premier, ce sont les révolutions, les guerres d'indépendance qui ont lieu en Amérique, notamment aux États-Unis, mais aussi à Haïti, et en Amérique latine. Vous avez tout un contexte qu'on a tendance à oublier, qui est extrêmement important, d'émancipation par rapport à la première forme de pouvoir colonial qu'avaient exercé les puissances européennes, que ce soit la Grande-Bretagne, sur l'Amérique du Nord, et puis l'Espagne, le Brésil, sur l'Amérique du Sud. Bon, j'entre pas dans les détails, ou la France, évidemment, aussi, dans le cadre de Haïti. Bon. L'autre source, c'est évidemment la Révolution française. La Révolution française qui va, pour la première fois, proclamer dans le monde la notion de souveraineté nationale, hein, de pouvoir du peuple libre, d'un peuple libre. La troisième référence, j'y reviendrai après dans le détail, c'est l'Allemagne. Troisième référence, l'Allemagne, qui va revendiquer aussi la libération nationale, mais par rapport à la domination française, si vous voulez. C'est le contexte, là aussi, d'une domination à caractère impérial, qui est la domination française sur l'Allemagne, représentée par Napoléon Ier. Parce qu'après la Révolution française, vous savez, il y a les guerres révolutionnaires, puis Napoléon va imposer sa domination sur l'Europe, et notamment sur l'Allemagne. Et il y a une occupation militaire de l'Allemagne, une partie occidentale de l'Allemagne, qui va susciter un élan patriotique très fort en Allemagne, qui va nourrir d'ailleurs tout un contexte philosophique, depuis Fichte, Hegel, Friedrich Jahn, mais aussi la musique, Beethoven par exemple. Bon, donc il y a un mouvement de patriotique en Allemagne qui va se traduire par des revendications nationales. Voilà, c'est la conjugaison de ces trois facteurs qui va aboutir à la première définition politique de la nation. Alors prenons la Révolution française. Donc, quelle est la perspective que les Français défendent? Eh bien, dans le cadre français, je dirais, c'est une définition, j'allais dire, sociale de la nation. Hein, la définition sociale de la nation, ça veut dire en gros que, par exemple, l'abbé Sieyès, dans sa fameuse brochure qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-état ?», définit la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune. Alors peut-être qu'il faut que je me rappelle mon passé d'enseignant du secondaire et que je note au tableau les termes, sans décrocher le micro. Donc l'abbé Sieyès, hein, l'abbé Sieyès a joué un rôle très important sous la Révolution française et il a publié une brochure qui est célèbre, qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-état ?», qui définit donc la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune. Dans cette perspective, la nation, c'est le peuple. Qui n'est pas dans le peuple? Ce sont les nobles. Hein? Tous les autres, on les appelle le tiers-état, qu'ils soient paysans, ouvriers, bourgeois, etc., forment le peuple. Hein? Dans la perspective révolutionnaire, les seuls qui ne sont pas dans le peuple, donc qui ne sont pas dans la nation, ce sont les nobles. Donc vous voyez que là, dans cette définition-là, c'est une définition qui est fondée sur un critère sociale ou politique d'égalité des droits. Mais dans la perspective française révolutionnaire, on ne dit pas quels sont les critères culturels, religieux ou autres qui définiraient un Français par rapport à un non-Français. Le vrai Français, c'est le citoyen français, c'est-à-dire celui qui accepte la loi commune, qui se soumet à la loi commune, qui est un citoyen, qui n'a plus de privilèges. Cette première définition, en fait, va apparaître par la suite incomplète, justement parce qu'elle ne donne pas de critères de type, je dirais, culturel, disons, permettant de distinguer les membres d'une nation des autres. Et ces critères, eh bien, ils vont être mis en valeur, évidemment, dans d'autres pays, dans des pays où vous aviez une domination à caractère, on pourrait dire, impérialiste. Hein, c'est le cas, je vous l'ai dit, de l'Allemagne au début du 19e siècle, c'est-à-dire juste après la Révolution. Vous avez donc les États allemands qui sont dominés par les armées napoléoniennes, qui ont occupé l'Allemagne au nom des valeurs universalistes de la Révolution française, puis qui en même temps imposent un pouvoir français, qui impose le code civil, qui impose donc une culture française. Donc, la révolte se fait de ce côté-là en disant « Mais nous sommes Allemands et nous revendiquons la liberté pour l'Allemagne. Nous voulons créer une nation allemande. » Donc la question est posée, et ces philosophes vont entreprendre d'y répondre, c'est qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce que la nation allemande? Alors à partir de là, vous avez une démarche qui va être historiquement extrêmement importante, parce qu'elle va avoir des effets après très puissants tout au long de l'histoire. Eh bien, on va chercher des critères historiques, des critères culturels, des critères linguistiques permettant de dire ce qu'est la nation allemande. Et le critère qui s'impose à ce moment-là, c'est le critère linguistique. Hein, c'est le critère de la langue qui devient tout à fait important. Mais il y a un autre élément qu'on oublie souvent par rapport à cette époque-là, c'est la notion d'esprit collectif. Une nation, c'est comme une personne. Hein. Vous avez des comparaisons constantes entre la personne et la nation. Hein. Donc une personne, elle a des membres, elle a un corps, mais elle a aussi un esprit, une intelligence collective. Et donc, dans la perspective de la définition allemande de la nation, vous avez cette notion d'esprit collectif, d'intelligence collective, qui donne ce qu'on appellera en allemand, je ne sais pas si vous avez fait de l'allemand, mais enfin, le Volkstum. Le Volkstum. Avec la racine Volk. Hein. Donc, vous avez une recomposition donc du vocabulaire. Les Allemands vont remplacer, vont germaniser un vocabulaire qui était né en France. Ils vont remplacer nation par Volk. Hein. Et vous avez là donc une notion qui, par exemple, au XXe siècle sera caricaturée, évidemment reprise dans un sens complètement totalitaire par les nazis, hein, autour de la notion de folk, autour de la notion d'identité allemande à partir d'un critère racial. Mais ça ne date, si vous voulez, cette notion raciale de la nation, elle ne date pas de cette époque. Hein. Faut pas confondre les époques. Au début du XIXe siècle, les gens qui défendent la nation, ce sont des révolutionnaires. Hein. Ils sont engagés dans un processus européen. Vous avez une alliance qui se fait entre les philosophes, les historiens, les folkloristes allemands, français, anglais, etc. Il y a une sorte d'enthousiasme visant à libérer les nations. C'est ce que je reparlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appellera le printemps des peuples. Hein. Il faut que les nations se libèrent des dominations impériales. Donc, au début du XIXe siècle, on a des échanges qui se produisent entre notamment l'Allemagne et la France, mais aussi avec les philosophes et les penseurs en Amérique. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de contacts entre les deux rives de l'Atlantique pour définir la nation. Et ce processus aboutit, du côté français, à une reprise de la philosophie allemande quelques décennies après, c'est à l'époque du romantisme. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître, je dirais, la première définition historienne de la nation française. Et on la doit à un historien qui est très, très célèbre, je dirais, qui est un des penseurs principaux de la République, c'est Jules Michelet. Jules Michelet va écrire une énorme histoire de France, où il va tenter de répondre, eh bien, qu'est-ce que c'est que la France, hein? Et la réponse de Michelet, bien dit, la France c'est une personne. La France ce n'est pas une race, c'est une personne. Puisque quand on regarde l'histoire de France, eh bien on s'aperçoit que, au départ, vous aviez des peuples, des groupes extrêmement divers, hein, les Gaulois, les Romains, les Vikings, les Arabes jusqu'à Poitiers, etc., etc. Et que tous ces peuples finalement se sont fondus dans une nation, mais cette nation, il lui manquait son esprit. Et cet esprit, comment il est arrivé? Eh bien, c'est la Révolution française qui l'a donné. Donc ça, c'est la base, je dirais, la vulgate républicaine qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est que la France, c'est comme une personne, elle a sa personnalité, son caractère, son identité, parce qu'elle a donc un esprit collectif, un sentiment d'appartenance, dit-on aujourd'hui. Donc, voilà la première étape. La deuxième étape, c'est ce qui se passe en 1870, comme je le disais tout à l'heure, c'est la guerre. La guerre de 1870 marque le début d'une période extrêmement, difficile pour la France, je dirais pour l'Europe. Hein, on ouvre un cycle de trois guerres successives, la guerre de 1870, la guerre de 14 et puis la guerre de 39-45, qui vont mettre l'Europe à feu et à sang. Et cette guerre de 1870, elle va avoir un effet majeur sur la définition de la nation. Puisque désormais, il n'y a plus de collaboration entre historiens ou philosophes des différents pays, mais un affrontement. Les historiens vont commencer, ou les philosophes vont commencer à défendre leur nation, leur État, contre les autres. Hein. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ce qu'on a appelé une définition française et une définition allemande de nation. Voilà en gros le contexte, je n'entre pas plus dans les détails parce que le temps passe. Maintenant je voudrais aborder le deuxième point de mon exposé, c'est parler de la nation en tant qu'enjeu de lutte pour l'indépendance nationale. Hein. C'est le premier grand thème politique qui concerne la nation autour de ce qu'on appelait au XIXe siècle le principe des nationalités. Bon. C'est un problème donc qui apparaît au début du XIXe siècle avec des groupes qui disent « Nous sommes une vraie nation et pourtant nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas d'indépendance. Hein ». C'est cette question-là qui va motiver un certain nombre de luttes au sein des empires qui existaient au XIXe siècle. L'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, notamment, qui sont des mosaïques, avec un très grand nombre de peuples, avec des populations qui parlent des langues, qui ont des religions différentes, etc. C'est le cas notamment des Balkans, hein, qui est le cas typique. Et donc on voit des gens qui se mobilisent pour revendiquer l'indépendance. Mais ce que je vais vous dire, c'est que cette question-là, qui débute au début du XIXe siècle, on va la retrouver évidemment au XXe siècle, dans une époque beaucoup plus proche que nous, avec les luttes de décolonisation. Quand il va y avoir la construction des empires coloniaux, notamment de l'empire colonial français, eh bien vous allez avoir les populations de ces empires qui vont revendiquer aussi la liberté. Hein, l'indépendance, comme on dit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les guerres coloniales, si vous voulez, que ce soit pour la France en Indochine et puis après en Algérie, sont motivées par ce même principe d'indépendance nationale. Donc, le but des luttes d'indépendance nationale, c'est d'obtenir un État. Hein. Ce sont des gens qui veulent obtenir un État indépendants, pour avoir la liberté pour leur peuple. Dans les livres d'histoire, je ne sais pas où on en est aujourd'hui dans les programmes d'histoire, parce que ça change sans arrêt par rapport à cette question, mais moi je me souviens qu'on abordait ça en classe de première et on l'abordait sous l'angle de l'éveil des nationalités. Hein. Et ça, moi, j'ai participé à plusieurs projets de réforme de l'enseignement de l'histoire, mais l'un des enjeux pour moi, c'est qu'on supprime ce mot « éveil ». Parce que vous voyez, le mot « éveil », il est connoté. Ça veut dire que là, on est bien dans le cadre d'une nation considérée comme une personne. Bon, on nous dit, ben oui, les nationalités, elles étaient endormies, puis un jour, elles se sont réveillées. Et ça, c'est extrêmement pernicieux du point de vue de l'analyse. Parce que c'est introduire, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui est l'engrenage des origines. Hein. Et les États vont mobiliser les historiens pour qu'ils découvrent des traces de l'ancienneté de leur peuple. Et donc on va avoir des batailles nationalistes qui vont opposer des groupes et des États entre eux, visant à dire « mais nous sommes une vraie nation parce que nous sommes plus anciens que vous hein. ». Donc, à partir de ce moment-là, il y a un danger qui se développe, qui est l'utilisation des universitaires, notamment des historiens, des linguistes, pour cautionner des luttes politiques. La perspective aujourd'hui qui domine chez les historiens, comme je vous le disais au début de cet exposé, c'est de dire que toutes les nations ont un caractère artificiel. Ce sont des constructions. Hein ? Vous ne pouvez jamais trouver de preuves qui soient valables dans tous les cas. C'est-à-dire, quand on nous dit, bien, c'est la langue qui définit la nation, ben, prenez l'exemple de la Suisse. Est-ce que la Suisse n'est pas une nation ? Si, et pourtant, vous savez qu'il y a plusieurs langues. On ne peut pas prendre non plus le critère de la religion, on ne peut pas prendre le critère ethnique, etc. Parce qu'à chaque fois, vous avez des exemples qui infirment cet argument. Donc en fait, il vaut mieux analyser, vous voyez, la construction des nations comme des luttes politiques qui ont opposé des individus entre eux autour d'un certain nombre de principes. Alors, les travaux dont nous disposons les plus récents là-dessus montrent que les individus qui ont joué le rôle le plus important dans ce travail de mobilisation nationale, en fait, ce sont, j'allais dire, des gens un peu de ma profession, ce sont les classes moyennes, la bourgeoisie intellectuelle, en gros, hein. La bourgeoisie intellectuelle qui, au XIXe siècle, était souvent marginalisée, puisque c'était dans ces empires les nobles qui exerçaient le pouvoir. Hein. Donc cette bourgeoisie intellectuelle qui était formée d'enseignants, d'érudits, d'universitaires, etc., eh bien, elle maîtrise l'écriture, elle maîtrise la culture écrite. Donc ils vont partir à la recherche des traditions populaires, des patois, des langages qui étaient parlés par le peuple, et à partir de là, ils vont fabriquer très souvent des langues écrites. Hein. Au début du XIXe siècle, vous avez comme ça, notamment dans l'Est de l'Europe, des langues qui sont fabriquées à partir des parlers populaires, comme le serbo-croate, par exemple, ou le slovène, ou l'ukrainien, qui deviennent des langues écrites, alors qu'auparavant, c'était simplement des langues orales. Et à partir de la création de ces langues, eh bien, vous avez des revendications nationales qui se développent. Donc vous voyez, un des points importants, c'est que le développement des nations, au départ, ou des revendications nationales, est étroitement lié au progrès de l'écriture, au progrès de la culture écrite. Il y a un rapport étroit entre les deux, et aussi un rapport étroit avec la création des universités. Dans un très grand nombre de pays, les universités sont créées pour renforcer les revendications nationales. Alors évidemment, ces militants de la cause nationale, les gens qui luttent pour l'indépendance, ce sont des gens courageux parce qu'ils s'exposent à la répression. Donc dès cette époque, on voit les empires, les dirigeants des empires, réprimer très durement les gens qui militent pour l'indépendance nationale. Alors je vais juste prendre un exemple qui concerne la France. C'est que la première période historique d'afflux de réfugiés en France, ça date de 1830. En 1830, vous avez un soulèvement des Polonais à Varsovie, à une époque où la Pologne n'existait plus comme État indépendant. Varsovie était sous la coupe de l'Empire russe. Et donc, les Polonais qui ne voulaient pas être soumis aux Russes vont se révolter, mais cette révolte est durement réprimée, et donc les Polonais sont obligés de fuir, et un grand nombre d'entre eux vont venir en France, et ils seront accueillis en France, et aujourd'hui vous avez des Français qui sont issus de cette émigration de réfugiés. Donc vous avez, voyez là, un enjeu politique qui devient extrêmement important, mais qui ne concerne pas au même titre tous les pays. Alors, le cas français, il est assez particulier, puisque la France est l'un des pays au monde où les revendications nationales, les nationalistes, seront les plus faibles. Alors, c'est un peu le paradoxe de la France, puisque la France, au départ, si on prend depuis les Gaulois, etc., était un pays extrêmement hétérogène, hein, avec des groupes extrêmement différents entre la France du Nord, du Midi, etc. Et pourtant, les revendications nationalistes ont été faibles. Hein. Pourquoi? Alors ça, c'est une question sur laquelle on a travaillé. Alors certains répondent en disant, bah oui, mais parce que en France, depuis Louis XIV, tout ça, tout le monde parlait le français. Bon, non. On ne peut pas apporter cette réponse-là. Des enquêtes montrent que, à la fin du Second Empire, vers 1860-70, la moitié des gens qui habitaient la France ne parlaient pas le français. De Paris. Le français de Paris. Hein. Notamment chez les paysans, évidemment, dans les classes populaires. Mais, La grande particularité de la France, c'est que le français, en tant que langue officielle, hein, la culture française était déjà largement répandue. Donc, la particularité de la France, c'est que les élites, hein, les élites, donc les gens qui avaient fait des études, qui avaient un fort capital culturel, linguistique, etc., eh bien, eux, effectivement, sont déjà intégrés dans l'État français. Ils n'ont pas intérêt, voyez, à se mobiliser contre l'État national. Et c'est typique de la Révolution française. Tous les révolutionnaires, ils sont francisés, ils parlent français, ils ont oublié les langues qu'on pouvait parler dans la région où ils étaient originaires. Donc ça, c'est ce qui explique la faiblesse des revendications nationalistes dans le cadre français. Elles vont exister quand même. Elles vont exister sous la forme du régionalisme. Hein? Mais en France, la particularité du régionalisme, c'est que le régionalisme va devenir une sorte de, très souvent, de complément du nationalisme. Vous voyez, par exemple, les premiers grands régionalistes en France, que ce soit des gens comme Maurice Barrès pour la Lorraine, ou Maurras pour l'Occitanie, on pourrait dire, sont des gens qui sont engagés aussi dans la défense du nationalisme. C'est seulement après mai 68 qu'on va avoir un régionalisme de gauche ou d'extrême gauche, avec l'Occitanie, le Front de Libération de la Corse, le Front de Libération de la Bretagne, etc., où vous avez donc des individus, des militants qui revendiquent l'indépendance politique pour leur région. Mais en général, ce sont des gens qui n'ont pas un grand écho populaire. Vous n'avez pas un fort soutien de la population à ce genre d'entreprise. Donc là, on a une particularité de la France. Mais pourquoi cette particularité? Eh bien, parce que le travail d'assimilation culturelle en France, il s'est fait depuis très 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 longtemps. Hein? Il s'est fait depuis le XVIe siècle, en tout cas depuis le XVIIe siècle. Vous avez eu, par exemple, les luttes religieuses qui ont existé en France. La France est devenue aujourd'hui un pays où officiellement plus de 80%, 90% de la population sont catholiques, hein, mais parce que vous avez eu un travail d'éradication des différences religieuses. Les guerres de religion, ça a été quelque chose de fondamental. La Saint-Barthélemy, vous savez, la persécution des protestants, les persécutions aussi des juifs qui ont été marginalisés, exclus sous la monarchie. Parce que la monarchie, il ne faut pas l'oublier, c'est un pouvoir politique qui est un pouvoir fondé sur la religion. Le roi de France, il s'intitulait lui-même roi très chrétien. Hein, il était considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. Donc la Révolution française a rompu avec ça, elle a introduit le principe de laïcité, de reconnaissance d'une diversité des religions, mais ce vieux fond, je dirais, catholique ancien a été quand même consacré et resté une dimension tout à fait majeure. On pourrait dire la même chose sur d'autres aspects, c'est pas la peine que j'y insiste. Donc, on peut dire que du point de vue politique, c'est un peu, vous avez peut-être trouvé un peu choquant ce que je dis, mais ça a entraîné quand même des aspects positifs, au sens où toutes ces guerres qui ont existé dans l'Est de l'Europe, dans les Balkans, encore récemment la guerre de Yougoslavie, ou encore aujourd'hui le Kosovo, la libération du Kosovo, eh bien, dans le cas français, n'ont pas existé parce que, je dirais, il n'y avait pas les forces constituées auparavant. Voilà. Le dernier point que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il faut bien voir que quand vous avez ces luttes autour des revendications nationales, quand vous avez des individus qui se mobilisent pour dire « le peuple, mon peuple est une nation », qui est-ce qui va arbitrer cette lutte? Eh bien, ce sont les instances internationales. Donc, il ne faut pas l'oublier. Les instances internationales, ça a été la SDN, Société des Nations, et puis aujourd'hui, c'est l'ONU. Vous avez toujours une instance internationale qui va arbitrer, donnant raison aux uns, donnant raison aux autres. Donc ça, c'est aussi un problème très important, je ne peux pas y insister, notamment par rapport au traité de Versailles, enfin le traité de paix après la Première Guerre mondiale. Le dernier point de mon exposé tournera autour de la nation envisagée. Vous pourriez éteindre les portables là, s'il vous plaît, c'est quand même assez déplaisant, hein. Écoutez, si ça ne vous intéresse pas, vous sortez. Moi, je ne vous oblige pas à être là. Hein. Bon, le dernier point donc, que je voulais aborder, c'est la question de la nation en tant qu'État-nation. Quand vous avez des luttes donc, d'indépendance nationale qui sont victorieuses, les nations, les nationalités obtiennent la liberté, c'est-à-dire qu'elles obtiennent un État. Un État indépendant, qu'est-ce que c'est qu'un État indépendant? C'est un État national qui est reconnu par le droit international. Ça, c'est pour ceux qui veulent partir, vous voyez, vous avez... Le... Voilà, un État national, aujourd'hui, c'est un État qui est reconnu par l'ONU. Vous savez ce que ça veut dire, l'ONU? C'est l'Organisation des Nations Unies. Alors, parmi les candidats à... l'indépendance, il ne faut pas croire qu'il suffit de revendiquer l'indépendance nationale pour l'obtenir. Alors vous avez un anthropologue qui s'appelait Ernest Gellner qui a évalué en fait qu'il pourrait exister aujourd'hui 8000 nations dans le monde qui mériteraient autant que la France, autant que les États-Unis, autant que l'Allemagne, etc. d'être indépendants. Mais en réalité, nous en avons seulement moins de 200. Donc vous voyez que quand on parle de la question nationale, il ne faut pas oublier tous les perdants, tous ceux qui n'ont pas obtenu cette reconnaissance politique qui sont la majorité. Ça crée toute une série de problèmes internationaux. Regardez par exemple la question des Kurdes, par exemple. Hein, le Kurdistan qui, après la Première Guerre mondiale, était potentiellement reconnu comme État indépendant, en fait ne l'a pas été pour des raisons de rivalité politique entre les grandes puissances, etc. Donc ça crée des ressentiments, ça crée ce qu'on appelle des minorités nationales, mais les minorités nationales, c'est un lot de consolation. On vous dit, ah ben vous n'êtes pas une nation, mais on va quand même vous donner un petit quelque chose, vous serez une minorité. Mais très souvent, évidemment, les minorités, elles ne veulent pas rester minorités, elles veulent devenir indépendantes. Ce qui crée des révoltes, ce qui crée après le processus de répression dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, je voudrais essayer de vous dire qu'est-ce que c'est qu'une nation en tant qu'État-nation. Hein? Une nation en tant qu'État-nation, c'est donc un groupe d'individus qui possède ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement, des représentants qui parlent en votre nom. Vous avez un chef de l'État, le président de la République, qui dira « nous Français » et qui s'adressera aux autres pays du monde en disant « nous Français ». Hein? Ça, c'est la base. C'est la représentation politique. Mais vous avez aussi un État national ne peut exister que s'il a un nom propre. Un nom propre. Regardez, par exemple, quand la Yougoslavie a explosé dans les années 90, vous avez plusieurs États qui sont apparus et qui se sont donné des noms. Vous avez la Slovénie, par exemple, qui a été créée, qui est devenue désormais un nom d'État, alors qu'avant, ce n'était pas un nom d'État. Bon, vous avez aussi un hymne national, la Marseillaise, dans le cas de la France. Vous avez un drapeau tricolore, qui sont des symboles qui concrétisent cette idée de nation. Un État national, évidemment, c'est aussi un territoire. Vous avez un territoire strictement délimité avec des frontières. Et seuls ceux qui ont la nationalité de cet État national ont le droit de se déplacer librement à l'intérieur de ce territoire. Les autres, eh bien, il faut une autorisation. Donc ce qui pose tous les problèmes d'immigration, hein, des sans-papiers, etc., etc., du fait même qu'ils n'aient pas la nationalité, n'ont pas la possibilité d'entrer librement. Il faut aussi, un des moyens de garantir son indépendance. C'est une armée, un véritable État-nation à une armée, et maintenant ça change, mais classiquement c'est une monnaie. La monnaie nationale garantit l'indépendance. Voilà. Un État-nation se donne des lois qui établissent une distinction entre les citoyens et les étrangers en accordant des privilèges aux nationaux. Quand vous êtes le national d'un État, vous avez des avantages par rapport aux étrangers. Par exemple, vous ne pouvez pas être élu président de la République française si vous n'avez pas la nationalité française. Vous n'avez pas le droit de participer aux élections de députés, etc., etc., ou présidentielles si vous n'avez pas la nationalité. Mais ces discriminations, on pourrait dire, elles existent aussi dans d'autres domaines, notamment sur le marché du travail. Vous savez que la France est des pays d'Europe où les discriminations fondées sur la nationalité sont les plus importantes. On estime à peu près que le tiers des emplois en France sont sous condition de nationalité. Alors aujourd'hui, ça change parce que si vous êtes membre de l'Union européenne, vous pouvez avoir souvent accès à ces professions, mais il y a une très fort marquage fondé sur la nationalité pour exercer notamment les emplois publics. Alors, toutes ces notions se sont mises en place en France à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, et l'enjeu majeur, ça a été la loi de 1889 sur la nationalité française. Hein? Cette loi qui dit juridiquement qui est français, qui ne l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une différence, vous avez des gens qui disent « moi je me sens français, je ne me sens pas français », etc. Ça c'est un point. Puis vous avez le droit. Hein? Et ce qui est fondamental dans nos sociétés, évidemment, c'est le droit, parce que le fait d'avoir des droits vous donne des possibilités aussi d'accéder au marché du travail, d'avoir des avantages sociaux, etc., etc. Mais en même temps, évidemment, ce droit, pour contrepartie, il y a des devoirs. Si vous êtes français, vous êtes censé faire le service militaire. Aujourd'hui, ça change aussi, mais vous avez donc la contribution militaire à la défense de votre pays. Voilà. Alors, un des éléments évidemment très importants dans cette logique-là, là, c'est le rôle de l'éducation. L'éducation, comme on dit, l'éducation nationale. Alors, vous avez le système d'enseignement tel qu'il existe encore aujourd'hui en France, il s'est mis en place à la même époque, tout ça s'est fait en même temps, au début de la Troisième République, avec Jules Ferry et les lois scolaires de Jules Ferry qui vont mettre en place un système national d'enseignement qui va être inculqué à tous les petits Français qui fréquentent donc l'enseignement public, l'école laïque, gratuite et obligatoire. C'est un système aussi d'inculcation d'une identité nationale. Hein? Par exemple, en France, les programmes d'histoire, ça a beaucoup changé au cours de la dernière période, mais globalement, ce qui n'a pas changé, c'est que les programmes d'histoire sont définis par le pouvoir central, par le ministère de l'Éducation nationale, par l'inspection générale, etc. Vous avez un très grand nombre de pays dans le monde où l'enseignement d'histoire n'est pas défini au niveau central. En Allemagne, par exemple, c'est les régions qui définissent les programmes d'enseignement de l'histoire. Hein? Donc, l'une des caractéristiques de la France, c'est la centralisation parisienne, disons que, l'enseignement et la définition de programmes qui sont les mêmes pour l'ensemble du territoire français. Alors, sous la Troisième République, c'est à ce moment-là qu'on va inculquer les mythes fondateurs de la nation française. Nos ancêtres les Gaulois, les grands héros de l'histoire de France, Vercingétorix, le chevalier Bayard, Jeanne d'Arc, Napoléon, etc., etc. Donc c'est un enseignement d'histoire qui va aussi contribuer, si vous voulez, à une vision nationaliste, parce que les Français sont présentés comme toujours, évidemment, les meilleurs, les Allemands sont les sauvages, cet enseignement va aussi justifier la colonisation, la France apporte la civilisation à ces sauvages des colonies, etc., etc. Bon, ça a beaucoup, évidemment, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est l'enseignement d'aujourd'hui, mais pendant une bonne partie du XXe siècle, voilà l'enseignement qu'on a inculqué aux enfants des écoles. Donc l'identité nationale a été véhiculée aussi de cette manière-là. Mais vous avez aussi des moyens, je dirais, coercitifs. Parfois, c'est par la force qu'on a inculqué l'identité nationale. Dans le cas français aussi, ça a pu exister. Je vous parle même pas là de l'empire colonial, parce que donnerait une dimension plus complexe à mon sujet, mais même en France, si vous voulez, par exemple, faut pas exagérer non plus cet aspect-là, mais ça existait, l'obligation pour les petits bretons, par exemple, de parler le français, hein, avec des punitions à l'école s'ils parlaient dans leur langue. Vous voyez, vous avez eu donc là une dimension coercitive. Mais je dirais que dans le cas français, l'essentiel n'a pas été par la force, ça a été plutôt par l'intérêt. Vous avez intérêt à bien parler le français, à bien connaître le français, parce que c'est comme ça que vous arriverez à accéder à des professions mieux considérées, mieux payées, etc. Hein, donc il y a cette dimension-là, où les gens eux-mêmes se sont dit, je vais m'assimiler, comme on dit, je vais m'intégrer à la culture légitime en France, parce que grâce à ça, au lieu d'être ouvrier, je deviendrai employé, etc., etc. Bon, mais vous avez d'autres pays, évidemment, où la dimension violente a été beaucoup plus forte. Évidemment, si on prend l'exemple de l'Allemagne, là on entre dans un cas extrême, puisque le nazisme, c'est une tentative pour inculquer une identité nationale fondée sur le critère racial, sur l'idée de la race aryenne, sur ce mythe que les Allemands seraient issus d'une même race initiale, ce qui est tout à fait absurde, je dirais, d'un point de vue historique, mais que Hitler, les nazis donc, ont manipulé pour imposer un régime dictatorial qui s'est traduit donc par une politique raciale d'éradication notamment des juifs qui a amené évidemment sur la barbarie qui a été la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez que le nationalisme, il peut avoir une version modérée, je dirais, et puis une version extrêmement violente. Et c'est toute l'histoire du XXe siècle qui est présente. Et on a vu ressurgir ces questions-là. On croyait que tout ça avait disparu parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on a vu quand même ressurgir ces questions-là avec l'effondrement du communisme et notamment la guerre en Yougoslavie. Vous vous souvenez peut-être, vous étiez peut-être trop jeune, mais tous ces slogans d'épuration ethnique, hein, qui ont été développés visant à essayer de construire des États-nations fondés sur un principe d'homogénéité. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc je terminerai en vous disant que pour nous, historiens, on va considérer l'identité nationale comme ce qu'on appelle une identité latente. Qu'est-ce que c'est qu'une identité latente? Eh bien, ça veut dire que c'est un élément de notre identité, mais un élément parmi d'autres. Chaque personne, chacun d'entre nous est, si vous voulez, une combinaison d'un grand nombre de critères identitaires. Hein. Les éléments qu'on peut pointer, on a un homme ou une femme, on vit dans telle région, dans telle ville, on exerce tel métier, on peut avoir telle ou telle religion, telle ou telle préférence politique, etc., etc. Une personne, c'est la combinaison de tous ces critères. Donc, je dirais que on ne se promène pas avec son identité nationale en bandoulière 24 heures sur 24. C'est seulement dans certains moments, dans certains contextes, que cette question-là se pose. Très souvent, pour la plupart des gens, la nationalité, c'est un peu comme l'oxygène qu'on respire. On ne s'en rend pas compte, on s'en fiche, ça nous importe peu. Mais il peut y arriver que, dans certaines circonstances, on soit mis en question, si vous voulez, par rapport à cette question-là. Le moment le plus fort, c'est évidemment quand il y a une guerre. C'est pour ça que la question de l'identité nationale a été forte pendant les périodes de guerre. Parce que là, évidemment, dans une guerre, c'est des affrontements entre des gens qui doivent forcément se définir par rapport à une nation. Un autre élément, c'est souvent quand on est en dehors de son pays. Si vous voulez, c'est souvent quand on va en vacances, par exemple, aujourd'hui, qu'on vous demande... de répondre à cette question, t'es français, t'es pas français, etc. Puis vous avez un troisième contexte, c'est évidemment le contexte lié aux questions d'immigration, aux questions donc de racisme actuel, de xénophobie, de résurgence de l'extrême droite avec le Front National, etc. Vous avez un certain nombre d'individus où on va les mettre en cause, on va les montrer du doigt en disant « mais toi, tu n'es pas un vrai français hein ». Et donc la question va être « mais qu'est-ce que c'est ?» Français. Donc vous voyez, ces questions-là qui sont anciennes, qui quelque part sont dépassées, elles peuvent ressurgir dans le contexte quotidien et donc elles peuvent encore avoir une importance. Donc c'est pour ça que pour nous, si vous voulez, en tant que chercheurs, il est extrêmement important de rappeler que la diversité des choses, la possibilité de se construire personnellement une identité en fonction de ses propres investissements, de ses propres valeurs, de ses propres origines, etc. Donc il faut distinguer absolument ce qui relève du droit C'est-à-dire c'est un phénomène objectif d'une définition juridique qui passe par la notion des papiers, etc., des aspects subjectifs d'ordre culturel ou l'ordre des représentations. Alors, dernier point, puisque là j'ai un peu débordé mon temps, je voudrais dire en conclusion qu'évidemment, vous voyez bien que l'État-nation, la nation, c'est une forme de groupement des individus qui est datée historiquement. Hein, je vous ai dit, avant le XVIIIe siècle, ça n'existait pas, et aujourd'hui, on peut se demander si on n'est pas dans une période de dépassement de l'État-nation avec le processus qu'on appelle la mondialisation, hein, qui, évidemment, est un enjeu tout à fait important. Alors, effectivement, on peut pointer un certain nombre de facteurs qui montrent que nous sommes dans une période de dépassement de l'État-nation. Le facteur le plus prégnant pour les Français, c'est évidemment la construction européenne. Ça, c'est un processus extrêmement important et historiquement tout à fait fondamental, puisque les pays européens avaient été en guerre entre eux depuis toujours, on pourrait dire. Hein? Donc aujourd'hui, ce processus de construction européenne, eh bien, il est important parce qu'il dépasse la notion nationale de citoyenneté pour aller vers ce qu'on appelle une citoyenneté européenne, qui fait qu'aujourd'hui, on peut circuler d'un pays à l'autre, travailler dans un pays ou dans l'autre, etc., etc. Mais, en même temps, eh bien, évidemment, on voit se reconstituer une forme, on pourrait dire, de nationalisme, mais de nationalisme peut-être européen, qui entraîne une sorte de clivage entre Européens et non-Européens. Donc il y a de nouveau ici un risque d'intolérance qui peut apparaître, et qui existe, il faut bien le dire, à différents niveaux. Enfin, le dernier point, c'est qu'il ne faut pas croire que, en dépit de la mondialisation, qu'on serait dans un stade où l'État-nation serait déjà dépassé. En fait, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est peut-être l'un des problèmes politiques majeurs, c'est la contradiction dans laquelle nous vivons entre une sphère, j'allais dire, culturelle, économique, qui est déjà largement internationalisée. Si vous voulez, c'est pas évidemment à vous que j'apprendrai quelque chose en disant qu'aujourd'hui, les références, par exemple, de la musique, elles sont complètement mondialisées. Hein? Les références du sport, elles sont mondialisées. Les formes d'identification, les héros qu'on va se donner, aujourd'hui, ils ne sont plus définis par la nationalité, par la couleur de la peau, par l'origine, par la religion. Nous sommes donc, de ce point de vue-là, dans un monde qui est déjà mondial, hein, dans ce qui est positif d'un certain point de vue. Mais sur le plan politique, là, pas du tout. Là, sur le plan politique, nous sommes encore dans un univers qui est enfermé dans une sorte d'espace national. Parce que les hommes ou les femmes politiques, ils sont en compétition pour gagner les élections, pour exercer le pouvoir, et ils dépendent de qui? Eh bien, ils dépendent de citoyens qui, eux, sont encore ancrés dans un territoire et dans un espace national. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de décalage entre le discours politique, qui va rester très national, hein, avec tous ces slogans sur l'identité nationale, etc., et un espace économique et culturel qui, lui, est déjà mondialisé. Donc nous vivons aujourd'hui, vous voyez, dans un état de tension, de contradiction, et qui se manifeste aussi par des problèmes qui sont des problèmes extrêmement douloureux, dont on parle très souvent, qui est le problème, par exemple, des sans-papiers, ceux qu'on appelle les sans-papiers. Parce qu'évidemment, avec les progrès des transports, avec les progrès des communications, eh bien, les gens circulent, ils ont envie de circuler, ils ont envie de s'établir ailleurs, etc. Et évidemment, les gens qui viennent des pays les plus pauvres peuvent avoir envie d'aller exercer leur talent dans les pays où il y a plus de ressources, etc. Mais les États construisent des barrières extrêmement fortes, de plus en plus fortes, pour empêcher cette circulation. Et là aussi, c'est une autre contradiction. Puisque nous avons aujourd'hui des moyens économiques, des moyens techniques nous permettant de circuler comme jamais on a pu le faire dans l'histoire du monde, et d'un autre côté, nous avons des technologies bureaucratiques, des papiers d'identité, des fichiers, des tests ADN, tout ce que vous voulez, qui essayent d'empêcher les gens de se déplacer. Donc voilà aussi un autre enjeu politique. Évidemment, moi ici, je ne suis pas là pour vous dire ce que j'en pense, mais simplement pour vous donner, vous voyez, un peu des éclairages qui vous permettront, vous, en tant que citoyen, de vous prononcer par rapport à des questions qui vous concernent, effectivement, non seulement en tant qu'élève, qu'étudiant, mais aussi en tant que citoyen. Voilà, je vous remercie.